Kompass bringt fremde Kulturen ins Rübliland. Kompass, jetzt auf Kanal K.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie sind live in der Sendung Fenster auf Afrika, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Heute Abend, ich werde mit meinen Gästen über die aktuelle Politik von Mali und auch über Togo sprechen, aber natürlich auf Französisch. Viel Spaß auf Kanal K. Ich bin Sylvain Moos am Mikrofon. Bonsoir Mali, bonsoir Bamako, Ouagadougou, Conakry, Lomé Togo, amis panafricanistes et amis du continent noir, heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission Fenêtre sur l'Afrique et bien sûr un programme panafricain de Radio Canal K en Suisse alémanique. Au sommet de cette édition, la crise au Mali. Et bien suite à la démission forcée du premier ministre malien Tchèque Modibo, comment expliquer le comportement du capitaine Sanogo dans la résolution de la crise au Mali? Dans les conditions actuelles, l'intervention militaire au nord du Mali est-elle toujours d'actualité? Eh bien, pour répondre à ces préoccupations, nous accueillerons dans un instant deux journalistes maliens et camerounais qui vont commenter et analyser la crise au Mali. Depuis Lomé au Togo, Madame Isabelle Amegamvi, vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement, membre du collectif Sauvons le Togo, sera également l'invitée du micro de Fenêtre sur l'Afrique. Elle parlera de la relance des activités du collectif Sauvons le Togo, notamment l'opération Les Derniers Tours de Jéricho. Et bien, sous l'œil vigilant de Michel Pouléo, Josué Maoli, Esteban Gagnon, Romain Koudodi, Lucien Houkanli, Fabi Kwasi, Augustin Amega constituent l'équipe de production. Fenêtre sur l'Afrique est présentée et réalisée par Sylvain Amos. Eh bien, encore une fois, merci de votre fidélité et merci de nous suivre en direct sur le www.canalk.ch. Merci également à nos radios partenaires, les gens des FM à Lomé au Togo, également la VRA, la voix de la résistance africaine installée en Allemagne.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
Eh bien, la démission du Premier ministre Tchèque Modibo Diarra annonce le retour sur la scène politique des militaires maliens. Tout est désormais à reconstruire au Mali. Tous ceux qui pensaient que le capitaine Amadou Raya Sanogo s'était sagement rangé se sont royalement trompés. Généralement, le Premier ministre remet sa démission et celle de son gouvernement au chef de l'État qui l'accepte ou la refuse. Ici, rien de tout cela. Le chef du gouvernement a été amené comme un manant à Kati, le quartier général du capitaine Sanogo. Selon le capitaine, dans le contexte actuel de la résolution de la crise malienne, rien ne marchait avec le premier ministre démissionnaire. Du coup, mardi dernier, le président par intérim Diankouda Traoré a nommé par décret Diango Sissoko au poste de premier ministre. Eh bien, face à cette situation, il est clair que les militaires du capitaine Raya Sanogo défient la résolution de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La communauté internationale également, quant à elle, s'indigne et dénonce aussi l'ingérence des militaires dans la vie politique malienne. Et pourtant, selon l'avis de certains observateurs, et si les poutistes du 22 mars dernier, qui s'opposent à tout projet d'intervention militaire étrangère, gardent la haute mer sur Bamako, la communauté internationale risque de renoncer à fournir aide et assistance. Alors, comment expliquer le comportement du capitaine Sanogo dans la résolution de la crise au Mali? Le peuple malien assiste-t-il dans cette crise à un renforcement du camp anti-interventionniste? Dans les conditions actuelles, l'intervention militaire au nord du Mali est-elle toujours d'actualité? Eh bien, pour nous éclairer, nous accueillons dans un instant ou bientôt, suite à en direct depuis Paris, et deux journalistes. Il s'agira également de Tiambel Gimbayara, journaliste à La Voix du Mali à Paris, et également Alain Jules, journaliste blogueur d'origine camerounaise. Ils seront tout de suite en ligne en direct depuis Paris. D'abord, Tiambel Gimbayara, bonsoir.
Bonsoir, Amos.
Merci de répondre à notre invitation. Également en direct depuis Paris, je l'avais annoncé, Alain Jules, journaliste blogueur d'origine camerounaise. Bonsoir.
Bonsoir Amos, bonsoir Tiambélé.
Merci également Alain Jules. Alors Tiambel Gimbayara, vous êtes, je le disais, vous êtes journaliste à La Voix du Mali, installé à Paris. Et alors comment expliquez-vous le comportement du capitaine Sanogo dans la résolution de la crise au Mali? Est-ce que la démission forcée du premier ministre tchèque Modibo a pu se faire, et bien sûr sans le consensus des puissances régionales? Je veux quand même parler de la CEDEAO et bien évidemment de Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, et qui est le médiateur de cette crise malienne. Et Tiambel Gimbayara.
Oui, il faut dire que cette situation est une situation exceptionnelle. Le président,
oui, je vous entends très mal, hein, Tiambel.
Ah oui, le premier chef Modibo Diarra a été nommé le 17 avril dernier et sur proposition de la junte et de la CEDEAO. Qu'il soit démis aujourd'hui par cette même junte révèle le sort de son comportement au DA. C'est parce que la CEDEAO a tout simplement commis l'erreur de signer avec un capitaine, un acteur digne de ce nom, duquel accord se revendiquait l'ancien premier ministre Cheikh Modibo Diarra.
Oui, et ça c'est votre position, Alain Jules.
Oui, je crois que aujourd'hui, par rapport au comportement du capitaine Sonogo, cette affaire malienne le dépasse en réalité. Cette affaire malienne le dépasse pourquoi? C'est simplement parce que, quand vous voyez ce qui se passe, à partir du moment où le médiateur Compaoré a reçu certaines organisations, je crois en Sardine, quelques membres du Mujao, du MNLA. Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer. C'est-à-dire que l'ex-premier ministre, justement, était vraiment pro-interventionniste. Il appelait de son vœu, je parle de Cheikh Modibo Diarra, il appelait de son vœu vraiment cette intervention. Il était très pressé, il voulait que l'ONU donne son aval, que les pays se réunissent pour qu'il y ait cette intervention-là. Mais on a l'impression que les Africains aujourd'hui sont en train de suivre la position algérienne. C'est-à-dire que l'Algérie refuse catégoriquement toute intervention au Nord-Mali. Pourquoi? Simplement pour préserver ses frontières, limiter l'afflux de réfugiés, éviter la résurgence de la défunte rébellion que l'Algérie a connue pendant 10 ans quand même. Donc, quelque part, ils se disent que finalement, je parle de Sanogo, qui doit se dire que bah oui, finalement, ceux qui sont les groupes armés qui sont au nord Mali, ce sont nos frères, quelque part, hormis ACMI, bon, qui a des éléments aussi algériens et un peu, enfin, des éléments arabes externes. Donc, il y a quelque chose. On va combattre qui? On combat nos frères. Peut-être que c'est pas la bonne solution. Et notamment, quand le nouveau premier ministre Diango Sissoko a accédé à la magistrature, à la primature, pardon, qu'est-ce qu'il a dit après sa nomination? C'est la reconquête du Nord-Mali, notamment avec des élections libres. Une façon, une reconquête, mais pas armée, puisqu'il veut former un gouvernement d'union nationale. Donc ça dit tout, ça veut dire que finalement, c'est Sanogo, on peut dire qu'il tire les ficelles, mais il ne tire pas forcément les ficelles. C'est la CEDEAO, hein, par rapport à Blaise Compaoré, qui a fait que Cheikh Modibo soit démis, on va dire, entre guillemets, de ses fonctions. Voilà, en gros, quoi.
Justement. Alors, Tiambel Gimbayara, vous êtes malien. Et alors, dans les conditions actuelles de la crise, est-ce qu'on peut affirmer que le peuple malien assiste-t-il à un renforcement du camp anti-interventionniste, Tiambel Gimbayara?
Non, dire qu'on assiste au renforcement du camp anti-interventionniste, c'est mal dire la réalité au Mali. Parce qu'au Mali, nous sommes en pleine cohabitation, une cohabitation imposée. On est passé d'une dure cohabitation avec l'éviction du chef Modibo Diarra, qui était un premier ministre qui gérait avec mépris, conduisait la politique avec mépris, qui ne rendait pas compte au président de la République, qui se comportait comme un président bis. On est passé de cette gestion-là à une gestion plus soft avec un premier ministre qui a traversé tous les régimes de Moussa Traoré, au président Alpha Omar Konaré, en passant par le président Amadou Toumani Touré, Diango Sissoko, un grand commis de l'État. Alors, en ce moment, moi, je crois qu'il faut régler définitivement la crise de Bamako, ensuite rapidement voler au secours des populations au nord du Mali qui souffrent. Qui souffrent de ces narcotrafiquants, de ces djihadistes. On ne va pas créer une république de la drogue dans ce désert-là, laisser que la charia de la drogue s'impose aux populations qui n'ont rien fait pour mériter cela.
Eh bien, et Alain Jules, il y a plusieurs forces interposées dans cette crise. Alors, à qui profiterait, selon vous, cette démission forcée du Premier ministre Modibo Diarra?
Là, c'est dur à dire, répondre à cette question est assez osé. Je crois sincèrement que la défection de Modibo Diarra ne profite finalement à personne. C'est vrai que bon, c'est lui le grand perdant là-dedans. Tout à l'heure, le confrère Tchambélé disait qu'il se comportait un peu comme un président bis, ne rendant pas compte au président Diakouda Traoré, etc. Bon, vous savez un peu, ce monsieur, il a quand même un cursus assez excellent. Et donc, peut-être qu'il a joué de ça. Malheureusement, un scientifique n'est pas forcément bon politique. Donc, il faut le comprendre. Je crois qu'effectivement, il n'a pas réussi à faire de cet effet-là quelque chose de positif pour le Mali. Donc, sa démission est normale. Mais déjà, quand vous regardez le fond des choses, il parlait tout à l'heure de ces groupes armés-là, qui sont des Maliens quand même, il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? C'est vrai que s'il y a une minorité qui donne des souffrances abominables aux populations avec l'interprétation extrémiste de la charia, bref, une pratique moyenâgeuse de l'islam, on connaît quand même une espèce d'islam, c'est ouvert, etc. Donc, je crois que sincèrement, on ne peut pas imposer ça aux gens du Nord Mali. Ils ne l'ont pas demandé. Il y avait un islam hyper tolérant, c'était le soufi, il n'y avait pas de problème. Donc, ces gens-là, on peut éradiquer cela, mais pas en allant faire la guerre, parce que les premiers à mourir, ce seront les Maliens. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je suis un peu opposé à cela, c'est-à-dire que on va combattre, etc., ça ne sert à rien, d'autant plus que la France refuse, on sait pourquoi, d'envoyer des éléments, même comme finalement ils risquent d'être obligés d'envoyer des éléments, c'est simplement parce que admis à leurs otages, et leurs otages sont dans ces zones-là,
justement,
donc
oui.
On comprend très bien les intérêts, l'Europe n'a pas forcément d'intérêt pour l'instant, pour intervenir, c'est que ça serait fait, je vais vous dire, dans les semaines qui suivaient la prise de Gao ou Tombouctou, hein, mais bon, ils n'ont pas trop d'intérêt pour l'instant, c'est ça le problème.
Bien sûr, et Tiambele Guimara, est-ce que vous partagez le même avis que Alain Jules?
Non, moi je crois que la solution de ce problème se trouve dans le dialogue, mais le dialogue après la justice, le dialogue après la libération des régions du Nord, après l'organisation des élections. Les Maliens autour d'une table, pourquoi pas, pour discuter, mais pour ceux qui ont commis des crimes, il faut qu'ils payent, ils aillent en prison dans une république, dans un état de droit. Pour ceux qui ont volé, il faut qu'ils soient jugés, ils payent pour le vol. Pour ceux qui vivent de narcotrafiquants, de drogue, de trafic de personnes et d'armes, il faut qu'ils payent pour tout cela. Ensuite, on se mettra certainement autour d'une table. Il faut une résolution de l'ONU, il faut un accompagnement des forces, il faut lutter contre le terrorisme. Ces terroristes-là n'ont pas demandé la vie de quelqu'un pour venir couper des mains, pour venir amputer, pour venir violer, pour venir imposer la charia à ces populations-là. Donc, ils ne comprendront que l'arme de la force.
Et Tiambele Guimbara, alors le premier ministre, le nouveau premier ministre Thiago Sissoko, hein, a déjà pris du service. Et bien, je pense que il aura quand même beaucoup de difficultés à régler cette crise au Mali. Alors, il a quand même assuré le 13 décembre dernier qu'un gouvernement d'union serait opérationnel dès la semaine prochaine, lors de la passation de pouvoir avec son prédécesseur Tchak Modibo Diarra. Alors, dans les conditions actuelles, est-ce que l'intervention militaire au nord du Mali serait-elle toujours d'actualité selon vous, Tiambel?
L'intervention militaire est d'actualité, mais elle s'appuie sur des préalables. Le préalable est que la résolution soit votée, que l'armée malienne soit prête à monter au créneau. Le préalable est qu'elle soit dotée d'armes, ce qui est fait, les armes sont là. Le gouvernement d'Union nationale peut avoir voix et du coup avec Django Sissoko, qui est un modéré très certainement, qui a fait tous les régimes, qui connaît les rouages de l'État malien, les rouages des partis politiques, qui ne va pas les mépriser, les écarter. Il y aura ce gouvernement d'Union nationale. Ensuite, maintenant, en route et en avant pour la libération de ces zones-là, des mêmes, ces terroristes, les narcotrafiquants, c'est qu'on ne voit pas assez. C'est le rôle de l'Algérie. L'Algérie qui nous rétorque sa guerre de 90 avec le FIS, qui veut faire de cette zone une zone de no man's land, une zone de trafic de drogue, une arrière-cour terroriste intégriste. On ne va pas l'accepter, ce n'est pas possible, parce que le Mali a été libéré en 1962 en hébergeant Abdelaziz Bouteflika. Il avait une maison à Gao et il s'appelle Abdelkader le Malien. Donc, à l'Algérie maintenant de dire cette vérité-là que le Mali refuse. Depuis 1991, tous les accords de paix ont été signés sous la supervision d'Alger. Aucun n'a été respecté. Le Moujao, l'Ansardine sont des soupapes de sécurité d'Alger. Et cette région qui régorge de pétrole, d'eau, de réserve d'eau, ne va pas être abandonnée. Un centimètre du territoire malien ne va pas être abandonné. Au même de ces dialysés de ça va être une crise longue, pénible, dure, très certainement meurtrière, et encore qu'elle est, Dieu seul sait qu'elle est encore. Mais le Mali ne va pas intransiger là-dessus. L'intégrité territoriale n'est pas négociable. Elle n'est pas négociable, elle n'est pas discutable. Voilà.
Eh bien, Tiambel Guimbara, je pense que vous intervenez en direct dans cette émission depuis Paris sur votre téléphone portable. Je pense que vous êtes un peu isolé, donc essayez de bouger un petit peu pour que la qualité du son soit bonne. Alors, Alain Jules, et le premier ministre malien Django Sissoko, je affirmais que d'ici la semaine prochaine, il y aura certainement un gouvernement d'union nationale. Alors, est-ce que pour vous, dans les conditions actuelles, est-ce que l'intervention militaire au nord du Mali sera-t-elle toujours d'actualité, Alain Jules?
Personnellement, c'est une option qui reste sur la table. On ne peut pas dire que, du revers de la main, comme ça, on balaye cette perspective-là. En revanche, est-ce que c'est la solution? Voilà la vraie question qu'il faut se poser. On peut avoir plusieurs options sur la table. Le dialogue, la main tendue. Et là, maintenant, si en face, les gens, puisque je crois en Sardine, il a donné une explication assez malienne, je suppose, de la composante terroriste au nord Mali, notamment en Sardine, Moujao, Kidal et autres ethnies, qui sont en réalité, selon lui, des satellites, des mini-satellites algériens, je ne sais pas trop, qui permettent que je m'inscrive un peu en faux face à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui on intervient, les premiers à mourir, ce sont les Maliens, ce sont les populations civiles. On a toujours vu dans une guerre, ce sont toujours les populations civiles qui meurent. Et par conséquent, il faut savoir aller vers ces gens-là. Moi, j'entendais un responsable d'un Sardine qui disait « Oui, on est prêt au dialogue. » Mais vous êtes prêt au dialogue? Alors on reconnaît le maçon au pied du mur. Donc pour moi, sincèrement, la solution la meilleure serait qu'on dialogue. Effectivement, bien évidemment, les gens qui ont commis des crimes, etc., les gens qui vivent du trafic de drogue, etc., ils doivent être condamnés, ça c'est sûr. On ne peut pas faire table rase dessus. Mais franchement, la solution n'est pas militaire. Ça, c'est mon avis, elle est plutôt politique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même que les Touaregs réclamaient plus d'autonomie, les Touaregs réclamaient plein de choses au Mali, ils sont maliens. Donc on essaie de réfléchir par rapport à ça. Si on tend la main aux Touaregs, on aura divisé ces terroristes-là, Moujao, etc., et ce gouvernement d'Union nationale ne va pas admettre Agmi, bien évidemment. Donc, si on fait ça, Agmi est mal parti et ils seront obligés soit de se retirer dans le désert et puis peut-être encore retourner en Algérie.
Oui, justement.
Ils sont algériens, donc voilà.
Alors, Tiambel Guimbara, la crise malienne qui se complique, bien évidemment, après la démission forcé de l'ancien Premier ministre. Est-ce que doit-on toujours parler d'intervention au nom du Mali, comme on vient de le dire? Et on a comme l'impression que la communauté internationale, et notamment la CEDEAO, aurait approuvé tacitement le coup de force du capitaine. Et alors, par cette réserve de prudence, que répondez-vous, Tiambele Guimara?
Non, je veux dire que l'intervention est d'actualité, restera d'actualité. Que la communauté internationale aide le Mali à le faire, le Mali a intérêt à le faire, ne peut pas sécuriser cette zone-là sans intervention contre les narcotrafiquants, contre les djihadistes. Dire que le MNLA est mieux bien au-delà, Ansarine et Moujaou ne sont pas des soupapes de sécurité pour l'Algérie, c'est moins connaître la réalité, parce qu'ils existent où. Et le Ansarine a été créé par Iyad Gali, qui est malien, un ancien diplomate certes, mais qui est devenu subitement après une dawa à Bamako, un intégriste, un salafiste après un séjour en Arabie Saoudite. C'est celui qui portait les valises pour avec les rançons pour libérer les otages français. On ne va pas imposer au Mali un calendrier. On veut l'aider. On ne va pas l'imposer un dialogue. On ne va pas l'imposer le consensus. Et ce dialogue, quand bien même il l'a fait des années et des années, on en est arrivé à un moment où une minorité, parmi la minorité, ne peut pas s'imposer à une majorité par rapport à la ruse, par rapport à la déviation, par rapport à la vente de la drogue, par rapport au trafic d'êtres humains, par rapport aux amputations. Et Ansarine est complice, tout comme le MNLA, tout comme le Moujaou, de ces méfaits d'ACMI, l'ancienne JSPC. Donc il faut reconnaître cela et dire qu'avec ces gens qui sont venus, sans être invités, qui ont commis des sévices, ils n'entendront que cela. Certes, les populations sont majoritairement parties et il n'y a pas de guerre ou il n'y a pas de victimes. C'est à déplorer. C'est le prix qu'il faut payer pour libérer le pays, pour retrouver la paix, pour retrouver la sécurité, pour dire à l'Algérie qu'on refuse cette situation, pour dire à tous ces pays-là, à ces prédicateurs, à ces charlatans d'intégristes et terroristes narcotrafiquants, il faut payer le prix, évidemment. Chaque peuple, à un moment donné, face à un destin et à des choix tragiques, et il faut ça pour la liberté du pays, parce que cette terre a tout donné au peuple malien et le Mali lui doit aujourd'hui l'unité. Le peuple malien lui doit aujourd'hui l'unité. Soit-il fort aussi pour le prix à payer, il le payera.
Et bien sûr, nous parlons de la crise au Mali qui perdure depuis près d'un an. Et même un observateur international pense que toute solution militaire et politique passe sûrement et par le capitaine Sanogo. Quel est votre avis d'abord, Alain Jules?
Ben écoutez, je vais un peu revenir sur ce qu'il a dit tout à l'heure, parce que en fait, en réalité, quand vous regardez le dossier, je sais très bien que la politique qui se réclame de la religion ou la religion qui se réclame de la politique, on va toujours vers le chaos, parce que bon, on promeut la soumission. Or, quand on regarde très bien ce qui se passe aujourd'hui au Nord Mali, je crois que, sincèrement, si on va vraiment dans une solution militaire, il y aura des conséquences qui seront lourdes. Bon, il dit que bon, c'est le prix à payer, etc. Mais malheureusement, quand il dit, les qui, justement, entre guillemets, peuvent faire basculer la situation, est-ce que c'est la ruine malienne? Non. Tout à l'heure, il disait, oui, la communauté internationale. Mais qu'est-ce qui cache, justement, ces extrémistes qui sont normalisés? Qui les finance? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est pas uniquement la drogue. Il y a des pays comme le Qatar qui sont derrière ça. Il y a des pays qui ont permis la puissance justement d'ACMI, de Kidal, du MNLA, du Moujaou, dont Sardine, à cause, on va dire, de la guerre en Libye. Donc, les Européens sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui au Nord Mali. Mais comme par hasard, ce sont les premiers à dire que oui, écoutez, intervention africaine. Allez-y, Africains, on va vous aider sur le plan logistique, mais allez-y, c'est vous qui devez faire la guerre. Vous allez faire la guerre à qui? Vous allez lutter contre vous-même, contre vos frères, comme on a fait en Libye, comme on a fait, on sait aujourd'hui ce que c'est devenu la Libye. La Libye est devenue un champ de ruines. Ils sont en train de faire la même chose en Syrie. Bon, c'est vrai qu'en Syrie, il y a plein de salafistes étrangers, mais voilà la réalité, c'est-à-dire ces gens-là, ils veulent installer le chaos, et je vous jure que ces gens ne sont pas pour le dialogue, ils seront prêts à envoyer des gens pour combattre. Pourquoi? Quand ils installent le chaos, c'est une zone extrêmement riche.
Merci Alain Jules.
Donc il faut le chaos pour qu'ils exploitent tout, c'est tout.
Merci infiniment Alain Jules, journaliste, blogueur, d'avoir quand même commenté, analysé la crise et au Mali. Et bien évidemment, la toute dernière question rapidement à Tiambel Guimbara. Merci également d'être toujours en ligne avec nous depuis la France. Alors, je rappelle tout le monde que vous êtes malien. Alors, votre pays est secoué par une grave crise depuis près d'un an, je viens de le dire. Et un observateur international pense que toute solution, hein, militaire et politique passe forcément par le capitaine Sanogo. Quel est votre avis, Tiambel Guimbara, sur cette dernière question?
Ouais, non, le capitaine Sanogo n'est pas du tout la solution. Il a fait un coup d'État anticonstitutionnel. Aujourd'hui, il se remet en selle par cette manière moins élégante de ramener un premier ministre. Je crois qu'il doit rentrer dans les rangs. Il faut le faire rentrer dans les rangs. S'il y a une prochaine étape, d'ailleurs, à secouer ce pays-là, c'est de régler définitivement le cas du capitaine Sanogo. C'est de le mettre aux arrêts, qu'il réponde de ce crime imprescriptible qu'il a commis. C'est d'avoir déréorganisé l'armée. C'est de le mettre hors d'état de nuire et de reconstituer cette armée pour aller à l'assaut de ses intégristes et de ses terroristes. Justement, le capitaine Sanogo nuit à la paix, il nuit à la guerre, il nuit au Mali, il nuit à la démocratie, il nuit à la transition. Ça, c'est clair.
Merci Tiambel Guimbara, ça c'est votre opinion. Merci d'avoir commenté et analysé également la crise au Mali dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci et bonsoir chez vous depuis Paris.
Merci, bonsoir.
VRA, Voix de la Résistance Africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
TogoCity.com, IssiLomé.com, CVU-Togo. diaspora.org, mo5-togo.com, togo-online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Merci d'être toujours en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Bien évidemment, nous sommes la voix des opprimés. Eh bien, parlons à présent de la politique au Togo. Dernier avertissement, vous avez dit. Les opposants parlent de dernier avertissement. Ainsi donc, vient de lancer le collectif Sauvons le Togo, les dernières cartouches par l'opération Les Dernières Tours de Jéricho. Fort Gnassingbé, lui, semble toujours décidé à passer en force. Lui et son père totalisent 45 ans de pouvoir. Donc, ils ont vu passer le règne de Charles de Gaulle, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Mitterrand, Jacques Chirac et dernièrement Nicolas Sarkozy. Et oui, Eyadema et son fils, Faure Gnassingbé, sont depuis 1967 et 2005 actifs au gouvernail du Togo. Pour l'increvable ministre de l'administration et du territoire, Gilbert Bawara, il n'y a pas de doute. Fort est bien celui qu'il faut pour le Togo. Son premier ministre, Aoumé Zounou, qui a d'abord fait ses armes aux côtés d'Edem Kodjo, avant de passer le fusil du côté gauche vers Unir, Union pour la République, parti de Faure Gnassingbé, va plus loin au micro du confrère Africa numéro 1 et il affirmait donc « Fort peut et veut rester jusqu'en 2025 ». Au pays des nuls, les nuls sont aussi des donneurs de leçons. C'est connu. Ici, personne n'est choqué de voir que ce n'est pas normal de diriger pendant 45 ans un pays avec le résultat qui tape les Togolais au visage. Personne ne fait plus une idée de savoir que l'usure et le temps ont prouvé que ni Gnassingbé père, moi le fils, ne pourront changer un pays qu'ils ont passé 45 ans à avilir et à piller. Puis, certains Togolais y sont même fiers de vendre l'image du petit despote. Les mots sont du député du Parti Socialiste Français, M. Launay, comme le seul Togolais capable de sauver le Togo du tsunami, de la peste blanche, de la corruption, bref de tous les maux qu'un pays laminé par la perte de repères et d'identité peut souffrir. Au-delà, on pompe l'air au premier venu de la communauté internationale que l'opposition est divisée, laminée, et c'est pourquoi les Gnassingbé ont un tel succès. On finit même par donner une réputation qui fait même honte aux concernés parce que trop imbibés de militantisme pour être vrai. Combien d'articles de presse n'avions-nous pas lus qui font de fort celui qui a pacifié le Togo? Combien de coups de gueule n'avions-nous pas entendu de ces impénitents chasseurs de primes tapis dans l'ombre qui nous font croire que demain sera bon et que Fort Gnassingbé a réussi là où toute l'opposition entière aurait échoué? Le plus dur à mâcher est qu'on veut faire passer quelqu'un qui a ses ceintures et ses cravates qui suintent le sang de pauvres Togolais comme un démocrate. Que dire de ce pillage à ciel ouvert des régies financières qui nous amène à apporter des cagoules pour ne pas voir en face la triste réalité? Et pourtant, c'est bien Fort Gnassingbé qui est calé en haut et dirige le Togo comme il l'entend et le veut. Quant à l'opposition, la démocratie par le verbe, donc à coup de gueule, par mégaphone interposé, ne paiera pas au Togo. Que ce soit clair pour tous, tant que l'opposition togolaise ne trouvera pas l'idée lumineuse de mettre l'équilibre de la terreur dans sa stratégie, c'est Fort Gnassingbé qui se moquera de toute leur initiative. Or, cette opposition togolaise qui doit donner la sève de la démocratie n'est pas encore en mesure de s'assumer. En ce moment, par exemple, il y a encore des incompréhensions futiles sur la méthode à adopter. Et pourtant, les législatives, c'est déjà demain. Dans quelle posture prépare-t-elle l'alternance? Avec des querelles de chiffonnerie? À elle, d'apporter le démenti. Le même virus de division a attaqué toutes les plateformes de l'opposition où les uns mettent en cause la légitimité des autres et vice-versa. C'est le cas en ce moment au regroupement dénommé Arc-en-Ciel, CST, où la guerre fait rage. L'opinion assiste chaque jour à des désaveux publics. Le dernier en date, Claude Amegavi, qui est défenestré du collectif Sauvons le Togo sans autre forme de procès. L'opposition doit aller chercher à se faire crédible et s'unir aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Et face à cette situation, le peuple togolais, épris de paix et de liberté, pourrait approuver ce que disait il y a quelques années le chanteur ivoirien Tikindia Fakoli. Allez dire aux hommes politiques qu'ils enlèvent nos noms dans leur business, on a tout compris. On a tout compris de Tikindia Fakoli, l'artiste ivoirien. Eh bien, avant de prendre notre invité du micro de Fenêtre sur l'Afrique, nous allons prendre tout de suite en ligne, en direct depuis Lomé, notre correspondant Augustin Améga pour le briefing sur l'actualité politique au Togo. Augustin Améga, bonsoir.
Bonsoir Amos.
Merci de nous accompagner depuis Lomé au Togo. Alors Augustin Améga, pour nous éclairer et nous situer sur l'actualité politique de la semaine au Togo. Alors, parle-nous d'abord un peu de l'audience de la Haute Cour de justice de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et bien sûr dans l'affaire Kwacha Gnassingbé, qui a et coupé 20 ans de prison ferme dans une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État togolais. Et Auguste Amega.
Oui, à ce procès-là, dans cette nébuleuse affaire de coup d'État, Patania Singe et cette compagnie, par le truchement de leurs avocats, avaient saisi la haute cour de justice de la CEDEAO, compétente en matière de violation des droits de l'homme. Donc tout le monde sait que cela a été émaillé d'un certain nombre de vices de forme, de vices de procédure, également de déni de droit. Donc les avocats qui ont représenté l'État togolais ont d'abord plaidé l'irrecevabilité de cette plainte-là, estimant que la plainte est sans objet à partir du moment où cette affaire a été jugée et par la Cour suprême du Togo et que la décision a pris la force de la chose jugée. Ils ont également plaidé l'incompétence de la haute cour de justice de la CEDEAO, mais la haute cour de la justice de la CEDEAO a balayé du revers de la main la plaidoirie des avocats de l'État togolais et donc s'est proclamée compétente pour connaître donc de ces allégations de violation des droits de l'homme qui ont émaillé ce procès-là. Notamment, les trois arguments évoqués par les avocats de Patia et consorts, c'est le fait que Patia Nyasinghe a été arrêté, détenu et jugé sans que son immunité parlementaire ait été levée. Le fait également que, malgré les allégations des droits de l'homme faites à la barre lors du procès, allégations confirmées par la suite par un rapport de la Commission nationale des droits de l'homme, la justice togolaise a continué à poursuivre le procès, donc condamné les gens alors que les instruments internationaux mentionnent en la matière que le procès devait être arrêté, une enquête diligentée. Les avocats ont également soulevé le fait que lors de la phase de détention, Patia Nyasinghe, consort qui était détenu pour certains à l'ANR, pour d'autres au Kanya Singe et à Dema, et puis pour d'autres à Jadami, n'avaient pas accès à leurs avocats. Donc ce sont les trois moyens que les avocats de Patia Nyasinghe ont plaidé. Et pour beaucoup d'observateurs, il y a de fortes chances que, tout comme dans l'affaire des 9 députés SI, le pouvoir judiciaire togolais ne soit une fois encore désavoué par la haute cour de justice de la CEDEAO, qui est par ailleurs présidée par une Togolaise, Madame Awanana. L'autre actualité sur le plan politique, c'est la curieuse sortie médiatique de l'un des représentants de l'ISP à la CENI, Jean-Claude Romao. Jean-Claude Romao qui a estimé que la composition de la CENI n'est pas équilibrée et que ce déséquilibre-là est en défaveur de l'opposition parlementaire. On sait que l'ANC et le CAR qui représentent l'opposition parlementaire aujourd'hui ne siègent pas au sein de cette CENI justement parce que les députés du pouvoir ont élu trois membres de l'IRC, justement, sur le quota réservé à l'opposition parlementaire. Et la même CENI, pour autant, continue ses travaux et sa présidente vient de transmettre au Premier ministre le projet de budget de fonctionnement de la CENI, ainsi que le chronogramme pour la tenue des prochaines élections.
Augustin Amega, parlons à présent du sport ou bien du football au Togo. Eh bien, alors que ce pays vient d'être qualifié pour la 8e fois de son histoire pour la CAN qui se tiendra donc en janvier 2013 en Afrique du Sud, une grave crise secoue la Fédération togolaise de football. Eh bien, tout a basculé lorsque le capitaine Adebayor Chehi dénonçait la gestion catastrophique de la fédération. Alors, mais le Premier ministre pense régler le problème de prime des joueurs avant le début de la CAN Afrique du Sud. Auguste Amega.
Disons que sur ce plan-là, il n'y a rien de rassurant qui se passe. Les autorités, notamment le Premier ministre et le comité, se projettent dans l'organisation pour la CAN, alors qu'avant d'aller à la CAN, avant d'aller à la phase finale, il y a justement la phase des préparatifs. Et le match contre le Maroc, à l'issue duquel justement les problèmes ont surgi, font partie de la phase de préparation. On a l'impression que l'État togolais a été surpris par la qualification des éperviers. Donc on a mis beaucoup de temps pour mettre en place les comités qui viennent à peine d'être mis en place, alors que les problèmes commencent déjà. Un certain nombre de joueurs qui doutent, Adebayor a suspendu sa participation en sélection, d'autres doutent de leur participation. À ce jour, rien n'est fait en direction de ces joueurs. On a confirmé le président de la Fédération togolaise comme étant le président du comité de la Fédération, alors que ce président, justement, c'est ça, le cinquième contesté par les joueurs. Et la commission des finances de la FIFA vient de donner le jeudi dernier raison à Adebayo en plaçant la Fédération togolaise de football sous sa tutelle du fait des malversations financières qui ont émaillé la gestion des fonds mis à la disposition de la FTF pour la mise en œuvre du projet de relance des compétitions au Togo. Donc, à ce jour, on ne voit pas très bien où est-ce que les autorités veulent aller. On espère que très rapidement, les autorités vont entrer en discussion avec la FIFA pour pouvoir définir la mise en œuvre de cette mise sous tutelle de façon à ce que ce projet-là puisse continuer à être exécuté pour la relance du football au Togo.
Augustin Améga, merci.
Le micro de Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos sur Radio Canal K.
Le peuple togolais leur en fait confiance et les soutiennent corps et âme pour l'alternance politique et l'état de droit au Togo. Eux, c'est le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel. Depuis plusieurs mois, ces deux coalitions appellent la population, surtout celle de Lomé, à des manifestations pacifiques qui sont souvent violemment réprimées par les forces de l'ordre. Mais la participation ou non d'un dialogue initié par le gouvernement togolais les divise. Koulda Meganvi du Parti des travailleurs quitte le collectif Sauvons le Togo pour cause de profonds désaccords avec le processus actuellement engagé vers la tenue d'un dialogue politique avec le régime actuel. En réalité, selon Claude Meganvi, la querelle de dialogue ayant servi de base à l'organisation des échéances électorales qui se sont succédées jusqu'à ce jour n'ont pu faire de celle-ci que des mascarades électorales dont les résultats sont toujours contestés par les populations s'insurgeant contre la falsification du verdict des urnes. Dans cette atmosphère qui pollue l'opposition togolaise, jusqu'où ira donc le collectif Sauvons le Togo qui vient de relancer une opération baptisée les derniers tours de Jéricho? Eh bien, pour répondre à cette complexe interrogation, Isabelle Améganvi, vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement, membre du collectif Sauvons le Togo, est l'invitée du micro de Fenêtre sur l'Afrique. Isabelle Améganvi, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'accepter notre invitation dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Alors, je le disais tantôt que vous êtes le premier vice-président de l'Alliance nationale pour le changement. Vous êtes également membre du collectif Sauvons le Togo. Alors, Isabelle Améganvi, 8 mois après sa création, dont 6 consacré à la mobilisation populaire, quel bilan peut-on dresser des activités du collectif Sauvons le Togo en dehors du constat selon lequel le pouvoir ne lâche pas toujours de l'Est, Isabelle Améganvi?
Oui, un bilan forcément positif, puisque les objectifs poursuivis par le collectif Sauvons le Togo, qui se retrouvent dans la plateforme citoyenne pour un Togo démocratique que le collectif a rendu public le 4 juin 2012 et qui prend en compte donc tous les objectifs poursuivis par le CLT, je dirais, ont été atteints. Et donc la mobilisation est au fait, puisque au jour d'aujourd'hui, le collectif a réussi par cette mobilisation-là à tenir le peuple togolais permanemment éveillé et qui a laissé tomber la peur que le régime dictatorial du clan Yassine a insufflé dans l'être même des Togolais. Les Togolais n'ont plus peur aujourd'hui, la mobilisation est toujours au fait. Et ce qui est certain également, c'est que, et ça c'est le bilan immédiat positif, c'est que des élections législatives frauduleuses que le RPT s'apprêtait, le RPT Unir s'apprêtait à organiser n'ont pas eu lieu jusqu'à la fin de la législature en cours. laquelle s'est arrivée le 11 novembre dernier. Ce qui est sûr, c'est que le peuple togolais ne veut pas que des élections soient organisées sans que les réformes institutionnelles et constitutionnelles aient été réalisées. Et ça, ça a été un bilan positif. Et la, c'est les actions, la mobilisation faite par le CSC qui a été donc la cause de, de cette victoire-là.
Mmh. Isabelle Amengan, vous parlez de mobilisation. Il est clair que le peuple est toujours mobilisé. Alors, comment se porte alors le collectif Sauvons le Togo malgré les dysfonctionnements et le départ du Parti des travailleurs et la répression violente de vos sympathisants?
Oui, vous, vous savez, la répression des manifestations, elle est de la volonté de la dictature qui résonne notre pays depuis 40 ans. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette répression-là ne fait plus peur aux Togolais, puisque la répression, elle est permanente, elle continue toujours à se faire, mais cela n'empêche pas les Togolais de réclamer la liberté, de rester mobilisés et d'aller vers l'objectif qui se sont fixés, qui est la liberté, l'organisation démocratique et transparente des élections. Donc, c'est de cela que je parlais tout à l'heure, lorsque je disais que le peuple togolais reste tout le temps mobilisé et que de cette mobilisation-là, nous en sommes certains, jaillira la victoire, qui est la liberté du peuple togolais, la démocratie et l'état des droits.
Oui, Isabelle Amengambi, je viens de le dire, et Claude Amengambi du Parti des Travailleurs a quitté le collectif Sauvons le Togo. Alors, comment est-ce que vous avez reçu le départ de Claude Amengambi?
Oui, vous savez, le départ de Claude Amengambi, c'est vrai, a donné un coup au collectif Sauvons le Togo, mais ceci dit, son départ se justifie parce que lorsque nous avons créé le collectif Sauvons le Togo, M. Claude Amengambi nous avait dit, prévenu au préalable, que le Parti des Travailleurs ne s'inscrivait pas dans le dialogue avec ce régime dictatorial que le Parti des Travailleurs estime être et avec nous, être à l'origine du malheur du peuple togolais. Et que donc, selon le Parti des Travailleurs, le dialogue ne peut pas régler le problème des Togolais. C'est la mobilisation jusqu'à ce que ce régime-là soit définitivement chassé du pouvoir qui est le leitmotiv du Parti des Travailleurs. Et donc, lorsque bon, il s'était agi pour les autres entités du collectif Sauvons le Togo de tenter de faire une ultime tentative de dialogue pour régler le problème lié aux réformes institutionnelles et constitutionnelles, le Parti des Travailleurs ne s'est pas retrouvé dans ce choix-là, et c'est pour cela que le Parti des Travailleurs est parti. Mais ceci dit, le Parti des Travailleurs nous a bien dit que lui, il reste contraire, que si le CSC organise des manifestations liées à la mobilisation de tout le peuple togolais, ils seront à nos côtés, mais que c'est le choix fait de dialoguer avec le régime qui n'a pas trouvé l'assentiment du Parti des Travailleurs. Ce qui fait que nous savons aujourd'hui ce pourquoi le Parti des Travailleurs est parti, et dès que la mobilisation qui va se faire bientôt sera organisée, nous espérons et nous sommes sûrs que le Parti des Travailleurs sera avec nous.
Isabelle Amengambi, est-ce que vous pensez que Claude Amengambi a été trop radical dans ses revendications?
Non, vous savez, je crois que fondamentalement, tous les membres du Parti des Travailleurs sont d'accord avec Claude Amengambi. Puisque nous sommes, si mes calculs sont bons, avec ce régime, peut-être au 19e dialogue, lesquels dialogues n'ont jamais rien donné du tout, compte tenu de la mauvaise foi dont a toujours fait preuve le régime RPT Unir. Mais nous disons que nous sommes en politique, et comme on dit chez nous, lorsque vous ne mangez pas quelque chose, vous ne pouvez pas couper cette chose-là avec la dent. Mais en politique, il arrive des fois que vous puissiez ne pas manger quelque chose, mais que soyez obligé de couper avec les dents. Et donc, c'est ce que nous avons fait en choisissant d'aller dialoguer avec le pouvoir, quand bien même nous étions persuadés que la mauvaise foi habituelle du pouvoir ne donnerait rien. Mais bon, c'était une tentative que nous devons faire pour démontrer encore à ce peuple-là que nous sommes conscients de sa souffrance et que si l'arrêt de la souffrance du peuple togolais devait passer par le dialogue avec le régime RPT uni, nous allons le faire. Mais ceci dit, bon, le Parti des travailleurs, lui, il avait, comme nous, hein, il savait que bon, le régime RPT ne changera jamais. Et donc c'est peut-être cela qui fait la différence entre le Parti des travailleurs. Il ne s'agit pas de radicalisme, hein. Moi je crois qu'il s'agit alors, plutôt de réalisme.
Alors vous donnez raison.
Le régime
vous...
que nous combattons depuis des années mm-hmm. et de quoi ce régime-là est capable.
Et là vous donnez raison à Claude Abengavi alors.
Oui, mais je donne raison, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je donne raison à Claude Amédéa. La preuve, lorsque nous avons choisi d'aller dialoguer, vous avez vu les résultats, c'est que encore une fois, le régime a fait preuve d'une mauvaise foi incroyable qui a fait capoter ce dialogue-là, peut-être une heure après le début des travaux. Et donc, ce n'est pas nous qui donnons raison à Claude Amédéa, mais c'est le régime RPT qui lui donne raison.
Ce sont les faits.
De croire que... Mm-hmm. Voilà, je crois que ce dialogue ne marchera pas.
Isabelle Abengavi, merci.
Cela, nous qui avons tenté, cela n'a pas marché
d'accord.
avec nous. Et on a ainsi raison à M. Claude Abengavi.
Parlons encore une fois du collectif Sauvons le Togo. Alors, en termes d'activité du CST, et vous en avez plusieurs à l'agenda. Alors, pouvez-vous rapidement énumérer quelques-uns de vos programmes clés ce soir dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique?
Oui, le programme... se décline en trois grands axes. Hein. Le premier, c'est puisque vous savez les manifestations qui nous attendent, nous les avons dénommées les derniers tours de Jéricho. Et donc ces manifestations-là se déclinent en trois axes. Il y a d'abord eu des prières et des actions de grâce pour remercier et louer Dieu pour son amour pour le Togo, et donc ces prières-là ont déjà eu lieu, et d'autres viendront ensuite tous les mercredis, soit à l'église méthodiste, soit à l'église évangélique presbytérienne, soit à l'église catholique. Et donc jusqu'au 9 janvier 2003, donc il y aura ces prières et autres actions de grâce destinées à nous raffermir dans la foi, dans la détermination, dans la poursuite de la lutte. Ensuite, deuxième axe, il y aura jeudi prochain, c'est-à-dire le 20 décembre 2012, une grande marche en rouge des femmes, la deuxième du genre, qui est une marche qui doit attirer encore l'attention des autorités togolaises, la deuxième fois sur les dérives de ce pouvoir-là. Et donc cette marche-là aura lieu le 20 décembre 2012. Et ensuite, le troisième axe, il y aura donc Décompte 3, cette fois-ci, avec la différence que ça ne sera pas seulement Décompte, mais une manifestation et sitting qui dureront trois jours, les 10, 11 et 12 janvier 2013, tant à Lomé. À Lomé, ça sera à Décompte, mais également dans les villes de l'intérieur du pays, notamment à Kara, à Sokodé, à Tapamé et à Anero. Et le tout en même temps, au même période, et donc à Lomé, Kara, Sokodé, à Tapamé et à Anero, tout le peuple sera mobilisé et ces trois jours de manifestation justement auront lieu donc dans ces grandes villes de notre pays.
Isabelle Amengavi, là, vous parlez encore de mobilisation de la population. Vous venez de le dire, la mobilisation y est, le peuple est toujours déterminé. Alors, le constat est amer que vos mobilisations n'ont pas fait fléchir ce pouvoir au Togo. Alors, vous venez encore de lancer les couleurs de 2013 avec l'opération Les Derniers Tours de Jéricho, vous venez même de l'affirmer. Alors, pour le CST, en quoi consiste réellement cette opération?
Non, mais cette opération consiste, comme nous l'avons fait dans le temps, vous savez, il y a eu Décompte 1, Décompte 2 et Décompte 3. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est une marche qui aboutit à un point déterminé où nous faisons un sit-in qui durera trois jours continus. Et donc, et je vous avais expliqué tout à l'heure que la différence maintenant par rapport à Décompte 1 et Décompte 2, c'est que Décompte 3 ou les derniers tours de Jéricho, ça sera à Lomé, à Kara et dans les autres villes que j'ai citées tout à l'heure. Et donc, la population restera mobilisée pendant trois jours dans ces grandes villes-là pour réclamer un certain nombre de choses que veut le CST, notamment l'exécution des recommandations du rapport de la CNDH, la traduction en justice des facilitateurs du dit rapport, le règlement de la question des 9 députés en exécution à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, la réouverture de la radio X solaire, la restitution des fonds extorqués aux commerçants et la traduction des auteurs de cet acte-là en justice, la cessation de l'instrumentalisation de la justice en mettant fin à certaines procédures violées, viciées et sur ordre, l'exécution de la décision de la Cour suprême dans l'affaire Agbaberté, la libération de tous les détenus politiques, la cessation des violations des droits humains par le pouvoir, la liberté de manifester librement selon la loi sur toute l'étendue du territoire national, la cessation de la répression sélective des vendeurs de carburant et les raquettes des forces de l'ordre, la mise en œuvre du rapport de la CVJR, régler le problème de la vie chère, régler les problèmes fonciers avec la, qui ont cours dans notre pays aujourd'hui avec la complicité des juges, de certains juges, et où les gens sont expulsés de leur domicile et l'indemnisation donc de tous les expropriés de terres de, par l'État
justement,
et le problème de l'exclusion des étudiants et de l'université de Lomé et de Cara. Vous voyez, c'est une liste
qui
n'est d'ailleurs pas exhaustive parce que il y a beaucoup d'autres problèmes. Mais c'est les problèmes les plus saillants que rencontre la population togolaise au jour d'aujourd'hui.
Isabelle Angami, rapidement, une dernière question. Alors, pour vous, à l'ANC et au CST Colotis au Volo Togo, il est clair que la mobilisation doit continuer malgré que le pouvoir persiste, entre guillemets, dans sa dictature au Togo. Alors pour vous, est-ce que le CST veut-il manier dialogue et mobilisation quand vous parlez d'accord politique pour prolonger le mandat de l'Assemblée? Êtes-vous entendu par le pouvoir, Isabelle Amigavi?
Oui, mais nous ne pouvons que nous entendre. Et puis, de toute façon, c'est la balle est dans le camp du pouvoir, puisque ce qui est certain, c'est que à tous les problèmes que je viens de citer, s'ajoute un problème, c'est le vide constitutionnel lié au fait que la législature de l'Assemblée nationale, qui a commencé en 2007 et est arrivée à expiration le 11 novembre 2012. Quand bien même la Cour constitutionnelle, aux ordres du pouvoir, a fait un avis disant que les députés peuvent continuer à siéger, tout le monde sait, et nul n'ignore au Togo, que cela se fait dans l'illégalité totale, et que bon, l'article 52 de la Constitution auquel il est fait allusion parle de continuation en cas seulement en cas de force majeure. Alors, vous voyez que certainement ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, les propositions du collectif Sauvons le Togo se retrouvent dans cette plateforme-là et que le gouvernement uni n'a pas d'autre choix que de respecter ces recommandations-là, ces différentes propositions faites par le CST, lesquelles propositions d'ailleurs ne peuvent amener que à des élections libres, démocratiques et transparentes. Alors, si l'UNIR n'a pas peur des élections, ben il y avait qu'à faire les réformes et tout ça, et tout le monde ira aux urnes et on verra ce que le peuple togolais choisira. Dans tous les cas, nous, la lutte que nous menons, c'est une lutte citoyenne qui est destinée à faire entendre raison à ce régime. Et je crois que ce régime n'a pas le choix, vu la détermination du peuple togolais aujourd'hui, que d'entendre raison et de répondre à l'attente du peuple togolais en faisant les réformes constitutionnelles et institutionnelles, l'amélioration du cadre électoral. Et ensuite, et seulement ensuite, d'abord, l'apaisement de la vie politique,
Isabelle,
en exécutant les préalables que nous avons posés. Ensuite, faire les réformes institutionnelles et constitutionnelles dans un dialogue sincère et franc. Nous, au CNC, nous n'avons jamais, contrairement à ce qui a été dit, refusé de dialoguer. Mais c'est le pouvoir qui a fait toujours de la mauvaise foi habituelle.
Merci. Merci beaucoup Isabelle Amegavi. Nous sommes arrivés donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci encore une fois d'être fidèle à notre émission préférée, Fenêtre sur l'Afrique.
Je m'insurge contre le viol de ma dignité, ma grandeur, ma noblesse, mon bonheur et ma fierté. Je m'insurge par ma colère diffuse, latente, résistante et révolutionnaire, en appelant aux âmes et à l'esprit de nos ancêtres, aux dignes fils de l'Afrique. Sundiata Keita, Kwame Nkrumah, Samori Touré, ALC Lassier, Tavio Amorin et King Luther Martin. Pour nous éclairer, à faire échec à ces fils indignes de l'Afrique, père d'aliénation, d'humiliation, de confiscation et de dilapidation de nos deniers publics, à tel point que je me demande à quoi sert la République. Les élections présidentielles et la démocratie en Afrique, et oui, en Afrique où nos leaders chefs volent nos expressions pour livrer à des coûts moindres notre richesse, notre dignité, notre âme. Fils indigne. Fils indigne. Fils indigne. Fils indigne.
Bonyade. 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 Pi bonyade lo. Bonyade.
Enfant qui, par des mots galvaudés, trahit comme Dalila et Judas l'idéal et le développement de tout un continent. Je m'insurge contre ces fils indignes qui, sans ridicule, vendent leur propre peau, leur âme, pour un pouvoir d'achat ensanglanté. Des enfants, des mères, des filles et des fils de l'Afrique, et condamner notre avenir à demeurer esclaves. Les faits sont là, indiscutables. Mais qui est le coupable? La planète tourne à vive allure et mon continent meurt de fausses piqûres, de fausses constitutions, voire un paillasson sur lequel les présidents à vie s'essuient les pieds à coups de canon. Fils indigne. Fils indigne. Fils indigne. Fils
indigne. Bon yade. Bon yade. Bon yade.
Hello.